questions communautaires en cette fin d'après-midi du 21 janvier. Avec la difficulté de l'exercice que j'ai dû hier anticiper sur le point d'arrivée de notre réflexion ce soir. Mais il me semble que l'anticipation était plutôt fiable. Bon, j'avais des indications aussi fournies par les orateurs. Il me semble que nous comprenons mieux, grâce à l'apport de spécialistes compétents et pédagogues, ce que les sciences et la nature permettent de dire ou de ne pas dire, aujourd'hui sur l'origine de l'humanité. La force des preuves cumulées en faveur d'une continuité entre le monde animal et l'homme et des transformations progressives ayant abouti à l'humanité moderne. Une des questions qui a été discutée donc surtout autour de la table ronde, c'était que les données génétiques actuelles rendent de plus en plus difficile de maintenir l'idée d'un couple unique, ancêtre de tous les hommes. Nous avons également mieux pris conscience des enjeux théologiques, l'enseignement biblique sur l'image de Dieu, l'importance de défendre le caractère historique du péché. Donc, péché qui ne doit pas appartenir à l'être, mais qui a été introduit par l'action de créatures libres dans l'histoire et qui peut donc être surmonté aussi par un acte historique de salut, cette fois-ci accompli par Dieu. Il me semble que nous avons, malgré toutes les questions qui restent, accompli des pas vers une articulation plus harmonieuse entre les données scientifiques d'un côté et les données bibliques et théologiques de l'autre. Un discernement affiné quant au genre littéraire des textes du début de la Genèse, la reconnaissance que l'homo theologicus, donc l'homme au sens théologique du mot, ne se résume pas aux caractéristiques anatomiques et génétiques de l'homme, de sorte que l'on ne doit pas espérer de le trouver dans les fouilles. Pourtant, la table ronde l'a fait ressortir, disons-le sans détour, nous n'avons pas, me semble-t-il, résolu toute tension ou difficulté dans l'articulation entre découvertes scientifiques et convictions théologiques quant à notre thème. Mais fallait-il s'y attendre? Pourquoi serions-nous mieux que nos pères, qui ne savaient pas non plus où situer Adam? Des modèles possibles ont été esquissés, qui permettent de faire justice à la fois au statut théologique de l'homme en Adam et aux données génétiques qui suggèrent très fortement le fait que le groupe d'hominidés dont a émergé l'humanité moderne n'a jamais compté moins de quelques milliers d'individus. Les tensions, et ça me paraît important, parce que bon, je suis peut-être aussi là pour ramener un peu d'apaisement dans l'esprit de l'un ou l'autre, justement, vous ne devez pas sortir confus de cette journée. Donc les tensions qui subsistent ne doivent pas nous faire oublier les aspects par rapport auxquels les données scientifiques, bibliques et théologiques se rencontrent de façon harmonieuse. Alors pour revenir encore à la question de l'origine commune de l'humanité. Bien que la génétique mette à mal la conception d'un couple ancêtre unique, elle apporte une preuve éclatante de la conviction, nourrie par les chrétiens depuis longtemps sur la base des textes bibliques, selon laquelle l'humanité a une origine commune. Contrairement justement à certains modèles scientifiques montrés ce matin, donc certains modèles scientifiques plus anciens qui spéculaient sur une origine multirégionale de l'humanité. Et il convient peut-être aussi de souligner qu'à aucun moment l'Écriture n'affirme explicitement que tous les hommes descendent d'un seul couple. Alors, il y a plusieurs textes qui ont été évoqués dans ce sens, donc ils s'en rapprochent, mais à aucun moment on ne trouve cette affirmation tout à fait nette. Et Nicolas Rey l'a aussi rappelé, des ancêtres communs, donc on n'a pas besoin en fait de remonter très loin pour trouver des individus qui sont de fait en fait des ancêtres communs donc de toute l'humanité. Donc il y a un papier dans Nature qui est tout à fait lisible même pour quelqu'un qui ne serait pas spécialiste en statistique ou numérique qui le montre très bien. Donc juste quelques pistes par rapport à cette question. Soulignons surtout, et ça c'est une pensée qui m'est chère d'ailleurs même dans la méthodologie même du dialogue entre science et foi, soulignons qu'il est erroné de considérer que la science nous livre la connaissance des faits auxquels la théologie doit s'adapter, plus ou moins aisément. Non seulement nous ne devons jamais céder en tant que chrétiens évangéliques à l'hégémonie de la science, qui est peut-être une des idoles les plus puissantes de notre civilisation occidentale. Mais aussi, il existe des faits auxquels la conception évolutionniste de l'origine de l'humanité n'apporte aucun éclairage. Alors, comprenons-nous bien, je ne retourne pas subitement ma veste pour faire cause commune avec les créationnistes de la jeune Terre ou des avocats de l'intelligent design qui font valoir des lacunes réelles ou prétendues dans le compte-rendu évolutionniste pour y glisser l'intervention divine. Non, je souhaite attirer votre attention sur des limites principielles de l'explication scientifique qui nous montrent que l'on n'a pas tout dit quand on a livré le compte-rendu même le plus complet de l'évolution de l'Homo sapiens. Et je cite Jack Collins à ce sujet, donc, qui a écrit un commentaire sur la Genèse, et qui dit ceci. « L'un des buts essentiels du récit chrétien est de doter les croyants d'une intelligence du monde. Si nous abandonnions la façon conventionnelle de restituer ce récit, avec ses composantes que sont une création bonne marquée par la chute, la rédemption comme action divine continue de restauration des créatures dans leur fonctionnement propre, et l'accomplissement final, lors duquel la restauration sera pleinement achevée et confirmée, alors nous perdrions toute possibilité de comprendre le monde. » Et je voudrais mentionner deux faits par rapport auxquels la science reste muette, et que la théologie éclaire. La raison et la corruption morale de l'homme. Nous avons surtout parlé du deuxième aspect. Je voudrais donc m'attarder un petit instant sur la question de la raison, la conscience éventuellement, mais je reste plus précisément sur la raison, l'intelligence. Donc la raison d'abord. En fait, je ne sais pas si vous connaissez un argument proposé par le philosophe réformé Alvin Plantinga, qui lui d'ailleurs reprend un raisonnement défendu par C.S. Lewis. Vous pouvez le lire dans le chapitre 3 de l'article de livre sur les miracles de C.S. Lewis, si jamais vous ne l'avez pas lu. Demain, ou disons lundi, après l'avoir acheté. Donc, mettez-vous, pour les prochaines vacances, à lire cet ouvrage de C.S. Lewis. Et donc, dans l'article, dans le chapitre 3, il développe un argument que Alvin Plantinga reformule et précise. Et donc, Plantinga propose un argument qui prouve que l'on ne peut pas être naturaliste, c'est-à-dire considérer que seule la réalité accessible à la science existe, et croire à la théorie de l'évolution. Dire un peu rapidement, vous ne pouvez pas être athée et évolutionniste. Alors, si je considère, en fait maintenant l'argument, parce que si je considère que mon intellect n'est que le résultat de processus évolutionniste, et donc l'argument repose sur le « que », donc si je considère que mon intellect n'est rien d'autre que le résultat de processus évolutionniste, je ne peux pas être assuré qu'il me donne accès à la vérité. Certes, la pensée doit être un avantage pour la survie, mais cela n'établit pas la fiabilité rationnelle de son contenu, car il existe sans doute des circonstances dans lesquelles il vaut mieux ignorer la vérité pour réussir dans le combat de la vie. Il vaut mieux ignorer peut-être les lois fiscales, comme ça vous pourrez vous enrichir et vous n'aurez même pas l'impression de mentir. Vous ne rougirez pas devant le juge. Mais dans ce cas, donc, je n'ai aucune raison de me fier aux délibérations de ma pensée et donc par ricochet, aucune raison pour croire à l'évolution. D'ailleurs, cet argument-là, qui est d'abord un peu surprenant, mais en fait cet argument est une version de la considération générale selon laquelle l'être ne permet jamais de fonder le devoir-être. La science vise à décrire ce qui est, mais la raison présuppose des normes. Dire qu'une affirmation est vraie ou fausse, et même que l'évolution est vraie ou fausse, repose sur un jugement normatif qui ne se laisse pas exprimer en termes scientifiques. La corruption morale de l'homme ensuite. Alors, je me contenterai de citer Blaise Pascal. Blaise Pascal a écrit si brillamment en quoi le péché originel est indispensable pour comprendre notre condition humaine que je me contente de le citer. Alors, quelle chimère est-ce donc que l'homme? Quelle nouveauté, quel monstre, quel chaos, quel sujet de contradiction, quel prodige? Juge de toute chose, imbécile vers de terre, dépositaire du vrai, cloaque d'incertitude et d'erreur, gloire et rebut de l'univers. Qui démêlera cet embrouillement? Connaissez donc, superbe, quel paradoxe vous êtes à vous-même. Humiliez-vous, raison impuissante. Taisez-vous, nature imbécile, apprenez que l'homme passe infiniment l'homme et entendez de votre maître votre condition véritable que vous ignorez. Écoutez Dieu. Car enfin, si l'homme n'avait jamais été corrompu, il jouirait dans son innocence et de la vérité et de la félicité avec assurance. Et si l'homme n'avait jamais été corrompu, il n'aurait aucune idée ni de la vérité ni de la béatitude. Mais malheureux que nous sommes, et plus que s'il n'y avait point de grandeur dans notre condition, nous avons une idée de bonheur et nous ne pouvons y arriver. Nous sentons une image de la vérité et ne possédons que le mensonge, incapable d'ignorer absolument et de savoir certainement, tant il est manifeste que nous avons été dans un degré de perfection dont nous sommes malheureusement déchus. Chose étonnante, cependant, que le mystère le plus éloigné de notre connaissance, qui est celui de la transmission du péché, soit une chose sans laquelle nous ne pouvons avoir aucune connaissance de nous-mêmes. Le nœud de notre condition prend ses replis et ses tours dans cet abîme, de sorte que l'homme est plus inconcevable sans ce mystère que ce mystère n'est inconcevable à l'homme. Mystère inconcevable, le péché originel, dit Pascal, mais mystère sans lequel nous ne pouvons comprendre notre condition. Que le péché originel a du mal à trouver sa place dans les reconstructions scientifiques du passé de l'humanité ne doit pas nous intimider. Abandonner le péché originel, c'est abandonner tout espoir de rendre compte de l'expérience humaine, qui est aussi solidement établie que les données paléontologiques et génétiques. Comprenons-nous bien, je n'y trouve aucun prétexte pour mettre en cause les découvertes scientifiques quant à l'origine de l'humanité. Mais gare au réductionnisme qui prétend apporter une description complète de l'homme par les seules ressources biologiques. L'idée selon laquelle la science explique tout est une idole mentale puissante que nous avons, je pense même en tant que scientifiques chrétiens, souvent du mal à combattre et à nous en défaire. Mais cet effort est indispensable si nous voulons résister au charme du grand mythe évolutionniste. Car reconnaissons-le, bien au-delà de ce que la théorie biologique de l'évolution permet d'affirmer, elle a fourni à bien des égards le mythe qui explique à l'homme moderne son origine, sa condition et sa destinée. Je vous renvoie encore une fois à C.S. Lewis qui a décrit brillamment ce mythe dans un article qui porte justement le titre de « The Funeral of a Great Myth » parce que C.S. Lewis s'empresse à l'enterrer. Et si nous pouvons être à l'aise avec la théorie biologique de l'évolution, avec les données paléontologiques et génétiques, nous ne pouvons que combattre le grand mythe évolutionniste de toutes nos forces. Que les travaux de cette journée aient pu aider chacun à mieux discerner comment la théologie évangélique peut accueillir les données scientifiques, sans pour autant céder à l'évolutionnisme constituant une vision du monde rivale. Les questions persistent, mais il faut conclure. Je souhaite le faire avec une citation tirée des Chroniques de Narnia. Dans les dialogues finaux du prince Caspien, donc où le lion Aslan dit en fait à celui-ci : Vous descendez du seigneur Adam et de la dame Ève. C'est à la fois un honneur suffisant pour faire relever la tête aux plus pauvres des mendiants et une honte assez grande pour faire ployer les épaules du plus grand empereur de la terre. Soyez contents. Je vous invite à conclure avec un chant. Dieu tout